Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fogo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Transformer le karité en richesse, tel est l'objectif de la conférence nationale karité qui organise depuis jeudi à Ouagadougou la deuxième édition du Salon international du karité de Ouagadougou-Siko. Lutte contre les criquets pèlerins, le Burkina prend ses dispositions. Pour ce faire, le ministère en charge de l'agriculture à travers la direction de la protection des végétaux et du conditionnement DPVC organise des sessions de formation dans les centres de formation de Bobo-Dioulasso, de Koudougou et de Tinkoudougou. Le Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP va se tenir du 10 au 13 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Les organisateurs ont donné l'information au cours d'une conférence de presse. Et puis, éliminatoire du Mondial 2022, les étalons du Burkina battent les requins de la mer Rouge de Djibouti 4 buts à 0. Pendant ce temps, l'Algérie a étrié le Niger sur ses installations par 6 buts à 1 dans ce groupe 1. Voilà pour le sommet, le développement dans un instant. Bonjour madame, bonjour monsieur. Le Burkina est le premier producteur de karité au monde. La conférence nationale karité veut transformer ce potentiel en richesse. Elle organise depuis ce jeudi à Ouagadougou la deuxième édition du Salon international du karité de Ouagadougou-Siko sous le thème « Faire de la transformation des produits de karité un des principaux leviers de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté des femmes et des jeunes en contexte de COVID-19 ». Près d'une centaine d'exposants participent à la foire du karité. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Ghislaine Zimbané et Emilienne Compaoré avec la voix de Asma Odao.
De premier produit d'exportation du Burkina Faso dans les années 1960, la filière karité est passée au sixième rang aujourd'hui. Le Salon international du karité a pour objectif d'accompagner les acteurs de la filière afin de contribuer à la création d'emplois et participer à accroître l'économie nationale, déclare le ministre de l'Environnement, Siméon Sawadgo.
La filière karité est une filière porteuse sur laquelle le gouvernement s'appuie la création d'emplois verts. Nous pensons qu'avec cette filière, nous pouvons avoir environ plus de 600 000 emplois verts, donc vont intéresser principalement donc les femmes et les jeunes. Mais au-delà de cet aspect emploi, c'est également quelque chose qui participe à la production de richesses au Burkina Faso. Parce que comme dirait donc l'Alliance globale Karité, dont le siège est à Accra, le Burkina Faso est le premier producteur de la matière première karité, mais en exportation. Mais nous n'arrivons pas à faire la transformation ici pour avoir une valeur ajoutée qui permet donc effectivement d'avoir beaucoup plus de débit.
À l'ouverture de ce salon, Théophane Bougma, le président de l'interprofession Karité, plaide pour un soutien financier afin d'accroître la filière Karité.
Notre interpellation aujourd'hui, c'est que les autorités nous accompagnent à pouvoir mettre en place des unités de transformation. L'industrie du karité ne saurait se développer s'il y a à la base une industrialisation forte, une transformation de tous les produits du droit du karité. C'est pourquoi nous avons interpellé le gouvernement par rapport à une éventuelle journée nationale de consommer vers le karité.
Le Burkina Faso occupe le premier rang mondial en termes de production de karité. Le pays possède plus de 280 millions de pieds adultes de karité, couvrant 70% du territoire national.
Le Burkina Faso prévient l'invasion des criquets pèlerins. La direction de la protection des végétaux et du conditionnement DPVC du ministère de l'Agriculture, avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD, organise des sessions de formation dans les centres de formation de Bobo-Dioulasso, Koudougou et de Tinkoudougou. La session de Bobo s'est déroulée mercredi dernier. Antoine Bonny pour le compte rendu.
Il se pourrait que les criquets pèlerins soient à nos portes et le ministère en charge de l'agriculture anticipe. Dans le cadre du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, 132 agents de l'agriculture de cette région seront outillés sur la lutte contre le criquet pèlerin. Ouvert ce mercredi, la session de Bobo va s'étendre sur 5 jours. Docteur Diakalia Son, directeur de la protection des végétaux et du conditionnement.
C'est vrai
vrai que le Burkina Faso n'est pas une zone où les criquets pyrénéens se développent, mais c'est une zone également d'étranger où les criquets, s'ils sont au Niger, au Mali, ils peuvent arriver au Burkina Faso. Et comme c'est des insectes très très dévastateurs des récoltes, donc il serait intéressant de renforcer les capacités des agents. C'est vrai que bon, on nous annonce, mais il ne faut pas qu'on va attendre quand ça va arriver. Donc c'est dans ce sens que le projet nous a appuyé. Voilà, toujours le projet PMPDS pour qu'on puisse renforcer les capacités de ces agents.
Cette formation va s'articuler autour de 4 modules selon le formateur Bekwana Nabier.
Le premier module, c'est comment reconnaître le criquet pèlerin, comment il se comporte sur le terrain et quelles sont les confusions possibles qu'on peut avoir avec les autres espèces criquet pèlerin. Le deuxième module, comment on arrive à faire les prospections pour pouvoir identifier, localiser le criquet pèlerin dans le pâturage ou dans les champs. Et le troisième module, la manipulation du GPS. Il y a aussi un quatrième module, les méthodes de lutte contre le criquet pèlerin. Maintenant, on a 2 jours de travaux pratiques.
Des modules qui vont apporter un grand changement pour les acteurs de terrain, selon Aminata Ouattara Nezonon, participante.
Ça va changer grand chose dans notre habitude parce qu'on peut confondre les criquets. Donc cette formation nous permettra vraiment de savoir si on a affaire à des criquets pèlerins ou des criquets arboricoles.
Après la formation, la direction de la protection des végétaux et du conditionnement avec l'appui du programme va réhabiliter les radios émetteurs. Antoine Bonny, Bobo Dulasso, Radio Omega.
Éducation au titre de la présente rentrée scolaire 2021-2022, l'AFD offre 52 salles de classe à la région du Centre-Est, 48 à celle du Centre-Nord et 41 au Centre. D'un coût global de plus de 2 milliards de nos francs, ce don vient booster les efforts du ministère de l'Éducation nationale en matière de mise à disposition des populations d'infrastructures éducatives modernes, de qualité et surtout durable. Le ministre de l'Éducation nationale était en tournée dans la région du Centre-Est où il a visité et inauguré quelques réalisations. Le point avec Judith Traoré.
Le collège d'enseignement général du village de Malanga-Naksore, localité située à 25 km de Tinkodogo, a constitué la première étape de cette série de visites. Il est composé de 4 salles de classe équipées et électrifiées par un dispositif photovoltaïque, de 2 blocs de latrines, d'une bibliothèque, d'un bâtiment administratif et d'un forage. Autre CEG visité, c'est celui du village de Nakaba dans la commune de Baskouré, province du Kuritenga, identique à celui de Malanga-Naksore. Ces joyaux qui réjouissent les bénéficiaires s'inscrivent dans le cadre d'un projet pilote axé sur le suivi citoyen. Stanislas Waro, ministre de l'Éducation nationale.
Nous avons travaillé à impliquer les communautés à la base à travers ce que nous avons appelé les comités locaux de projet qui regroupent donc des populations, c'est-à-dire les comités de gestion des établissements scolaires, les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices.
Pour un suivi efficace des travaux de construction, les membres du comité ont été outillés en la matière. Ce suivi citoyen présente de nombreux avantages selon Stanislas Waro.
Tout ça permet donc à la communauté de suivre au fur et à mesure et d'attirer l'attention des responsables de projet sur des malfaçons éventuelles. Et ça a eu pour avantage la réalisation d'infrastructures de qualité. Et c'est extrêmement important aujourd'hui où l'actualité est dominée par la dégradation d'infrastructures publiques, parmi lesquelles donc une bonne partie est constituée d'infrastructures scolaires.
Le contrôle citoyen sera désormais inscrit dans tous les projets de construction d'infrastructures scolaires, selon le ministre Stanislas Waro.
Vendredi s'est tenue la conférence annuelle de gestion des ressources humaines. Le thème retenu pour cette édition est le conseil de discipline, état des lieux et perspectives. Cette réflexion vient en réponse à la montée en puissance de l'incivisme administratif qui entraîne une baisse drastique de la productivité publique. Abdulaziz Oulabou.
Détournement de deniers publics, actes de violence physique ou verbale sur le lieu de travail, actes de corruption, manquement à la déontologie des emplois. Voilà autant de mots qui minent l'administration publique. Cette session va donc offrir l'occasion de faire un diagnostic profond sur le dysfonctionnement des conseils de discipline. Charlemagne Ouédraogo, représentant du Premier ministre, patron de la cérémonie.
Ce que nous attendons de cette conférence, c'est qu'un certain nombre de règles puissent être revisitées et que les agents de l'État puissent s'en inspirer dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez très bien que nous avons un certain nombre de dérives sur le terrain, des détournements, de la concussion, du harcèlement, et un certain nombre de comportements qui ne font pas honneur à l'État.
qu'il ne faut même pas honneur aux agents. Et nous avons voulu que les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie soient au centre de cette conférence.
Redynamiser et donner un nouvel élan à l'administration publique, tel est l'objectif de cette rencontre annuelle instituée depuis 2009. Marcel Ouedraogo, directeur général de la fonction publique.
On n'en prend pas du plaisir à sanctionner quelqu'un, mais ce sont des règles qui sont mises pour que ça marche. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, ça décourage ceux-là qui sont de bonne volonté, qui veulent travailler et qui se rendent compte que, bon, il y a une impunité qui règne autour. Donc il est vraiment nécessaire aujourd'hui que nous puissions redynamiser le conseil de discipline afin de donner un nouvel élan à l'administration publique.
La fonction publique compte un peu plus de 200 000 agents, d'où une certaine lenteur dans la gestion de leur carrière. Ainsi, ce document soumis à la réflexion des participants permettra de faire une proposition de piste de solution pour une efficacité en la matière.
L'Université de l'Unité africaine a fait sa rentrée scolaire jeudi dernier à Ouagadougou. Une occasion d'accueil des nouveaux étudiants. Les meilleurs étudiants ont été récompensés à l'occasion. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans le respect strict des mesures barrières. Valérie Guéret.
Retour de classe pour les anciens, premier pas pour les nouveaux, ces jours de rentrée à l'Université de l'Unité africaine. Accueil chaleureux des nouveaux étudiants et des lauriers pour les majors de promotion. Nassiratou Kongo, major en licence transport logistique.
On a vraiment lutté, la compétition ailleurs, mais vraiment pour être major. Les devoirs, on a deux devoirs plus une composition, bon, un examen, et c'est franchement pas facile. Il faut suivre les cours, après il faut approcher les professeurs. Ça fait quand même plaisir.
Situation de COVID-19 oblige, le lavage des mains et le port de cache-nez sont obligatoires pour les étudiants avant d'accéder à l'enceinte de ce temple du savoir. Pour l'occasion, le président du conseil d'administration a invité tous les étudiants à se faire vacciner. Moussa Ahmed Diallo, président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine.
Vous êtes obligés de laver vos mains et dans les classes, les gestes barrières sont respectés. Et nous invitons fortement aussi les étudiants à se faire vacciner. Je vous informe au passage que l'ensemble des personnels de IAM, l'Université de l'Unité africaine, est vacciné.
Pour cette rentrée académique, environ 1 000 000 d'étudiants se sont inscrits à l'Université de l'Unité africaine et le nouveau recteur compte impliquer tout le personnel dans l'élaboration d'un plan stratégique.
Le Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP va se tenir du 10 au 13 novembre 2021 dans la capitale burkinabé. Les organisateurs ont déballé le chronogramme des activités de la 9e édition ce jeudi 7 octobre au cours d'une conférence de presse tenue au centre de presse Norbert Zongo. Des innovations majeures sont annoncées pour cette édition. Plus de détails avec Pierre Badolo.
Cette 9e édition va se tenir sous les thèmes en rapport avec l'actualité de ces dernières années, ayant constitué des entraves à la liberté d'expression et de presse. Les sujets qui seront abordés sont ceux liés au traitement de l'information en ces temps de crise multiforme au niveau mondial, sur le continent africain et en particulier au Burkina Faso. Siriki Dramé, président du comité de pilotage du FILEP.
Il y a des confrères éminents qui viendront d'Afrique, même du reste du monde, pour animer les panels du colloque avec le thème que j'ai évoqué là, qui est très intéressant. Il y a la crise sécuritaire, la crise sanitaire, les médias qui sont en danger. Si vous voyez, depuis 2020, avec l'apparition de la pandémie, les médias ont pris un grand coup quant à leur survie même en tant qu'organe et aussi de fonctionnement.
Des innovations majeures sont prévues en cette année et parmi lesquelles le prix Norbert Zongo qui prend une dimension d'envergure. Siriki Dramé.
Une activité majeure, c'est le prix Norbert Zongo, journaliste d'investigation, qui a pris une autre dimension et cette année. Il a même changé d'appellation. C'est désormais le prix africain du journaliste d'investigation Norbert Zongo, TIGNZ. Nous avons eu des partenaires qui ont permis de donner une autre dimension à ce grand prix d'investigation Norbert Zongo, dont l'institution est liée aussi à la création du FILEP.
Le FILEP se veut le carrefour de la presse nationale et internationale. Ce concours qui se veut dans le sens des innovations de la liberté de presse est un événement qui regroupera désormais des festivaliers du continent africain dans plusieurs catégories. Le FILEP 2021 est placé sous le thème « Au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, Construisons des médias résilients au service des citoyens africains.
Culture, l'artiste musicien Ouamien Kaïd revient sur la scène musicale bobolaise avec Ambre et Lumière. L'œuvre de six titres a été présentée au Mélomane de la cité de Sia. L'EP Extended Play parle des valeurs de solidarité, mais aussi comporte des messages de sensibilisation. Antoine Bonnet.
Ombre et Lumière, c'est le nouvel album de l'artiste Ouamien Kaïd. Après Sira Badaziri et Haïra, l'artiste Moussa Diara, de son vrai nom, revient avec un EP, un extended play de 6 titres, chanté en Bouamou, français et Djula, et enregistré à 99% en live. Plusieurs thématiques sont traitées dans cette œuvre musicale, Ouamien Kaïd.
Après Mourotelin Tessé, on peut retrouver un morceau comme Iwasa Donse en Bambara, qui veut dire courage, et puis on peut retrouver aussi un titre comme Kobe Kafereke qui parle de ce que notre pays est en train de traverser depuis 2015 jusqu'à nos jours. Ça ne fait que s'empirer, et puis c'est aussi un appel à tous les frères et sœurs qu'on se donne la main. On peut aussi retrouver un autre titre comme Réseaux sociaux, des gens qui s'en servent pour dénigrer les autres, pour faire une certaine sorte de justice, alors que ces outils-là, on peut les utiliser aussi pour communiquer, pour montrer ce qu'on sait faire. Aussi, on a un morceau d'époque décoloniale. Le problème de l'Afrique, c'est les anciens colonisateurs. C'est pas pour appeler les gens à la révolte, mais maintenant il est vraiment temps que nous coupons le cordon avec les anciens colonisateurs.
Des projets sont annoncés pour la promotion de l'album.
On est déjà en train de préparer un grand concert qui est le samedi 9 octobre 2021. Et puis dans les années à venir, on essaye de travailler aussi pour monter un label, pour produire les nouveaux talents.
L'œuvre a été enregistré à Bobo Dioulasso et a connu des collaborations d'artistes comme Black Guinepo, Sally Z et Moïse Ouattara. Artiste bobolais vivant à Bordeaux, Ouamien Kaïd a fondé le groupe de Nipiste et Afro-Rap d'Enkaflo. Il a aussi évolué dans le groupe le Taxi Bruce Orchestra en Suisse. Antoine Boni, Bobo Dioulasso, Radio Omega.
Omega Sport.
Le sport avec cette victoire des étalons 4-0 face aux requins de la mer Rouge de Djibouti, un doublé de Abdoul Fayssal Tabsoba, un but de Issa Kamore et un autre de Mohamed Kounaté ont suffi pour mettre en déroute les Djiboutiens. Cette équipe est toujours en construction, donc logique satisfaction de l'entraîneur national Kamou Malo.
Et quelle que soit la manière, on l'a dit même en conférence de presse que même à 1-0, on était partant, on était preneur. Alors les garçons ont marqué jusqu'à 4 buts, c'est à saluer. Même si nous savons qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, parce que c'est une équipe en construction. Vu que ce soir, on a joué sans certains éléments qui nous avaient donné satisfaction au regroupement passé, qui malheureusement aujourd'hui n'était pas de la partie parce que ayant soit malade ou ayant eu des bobos. Alors donc, je pense que quand on est satisfait du résultat, on dit que l'appétit vient en mangeant. Quand nous-mêmes, vous voyez que la réaction des garçons, ils n'ont pas montré, en tout cas une joie excessive, parce qu'ils se disent eux-mêmes qu'il y avait la place pour mieux faire. Ça, c'est en football. Mais à un moment donné, on cherchait simplement un but. Alors je pense que 4, c'est à saluer. Et c'est ce que je dis, même si nous sommes conscients qu'en tout cas, il reste beaucoup de travail à effectuer. Et pour prétendre vraiment être une bonne équipe.
Djibouti, c'est 3 matchs, 3 défaites, avec à la clé 16 buts encaissés et 2 de rendus. Contre le Burkina, l'entraîneur Julien Mété pense que ces garçons ont manqué de baraka.
L'analyse, c'est qu'on prend l'eau pendant 10 minutes, puisque on prend le premier but à une minute de la mi-temps. C'est celui-là qui fait très mal au moral. Et puis sur le retour de deuxième période, on en prend 3 dans les 10 premières. Donc en tout, à peu près dans 10 minutes, on prend 4 buts. Avant ça, c'était très bien, surtout sur le plan de jeu tactique. Et puis à la fin, c'était bien techniquement, parce que malgré la pression et malgré le fait qu'ils étaient menés 4-0, ils ont cherché à jouer au ballon, à repartir avec du courage. Malheureusement, on n'est pas bon dans les surfaces de réparation. Il nous faut beaucoup d'occasions pour marquer. Et puis, puis on manque de, dans notre surface, on manque de, d'esprit un peu tueur. Voilà, dans les deux surfaces, on n'est pas bon, donc ça donne ses résultats. Mais entre les deux surfaces, que ce soit défensivement ou avec le ballon, on n'a pas à rougir.
Pour le double buteur de ce match, Abdoul Faisal Tabsouba, le dernier match contre l'Algérie sera décisif.
Voilà, c'était un match difficile. En première mi-temps, c'était un peu compliqué parce que l'équipe du Djibouti qui est venue défendre, qui sortait pas, c'était un peu compliqué de trouver des espaces. Et voilà, après le but à la fin de la première mi-temps qui a permis de créer des espaces, le Djibouti qui s'est plus projeté vers l'avant et en avait plus d'espace pour tuer le match. Et voilà, on est content et comme on a dit, c'est une course. Et la course, c'est contre l'Algérie, pas contre le Djibouti, pas contre le Niger. Et voilà, c'est un peu ça. Si on peut mettre 10, il faut en mettre 10 parce que après c'est des calculs chinois et tout. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est vrai que le dernier match sera décisif contre l'Algérie. Mais je pense que le prochain match contre le Djibouti, il faut essayer encore de mettre encore plus d'énergie pour élever le score.
Le match n'était pas facile et les étalons le savaient, mais ils se sont battus à fond pour arriver à vaincre les requins de la mer Rouge de Djibouti. Youssoufou Dayo, capitaine.
On savait que c'était un match compliqué pour nous et voilà, vu l'adversaire, les deux dernières sorties, ils ont pris beaucoup de buts et ils n'arrivent pas à jouer au football et voilà. Face à cette équipe, on s'attendait à ça, ils vont jouer en bloc bas et voilà, on est monté, ils ont joué en 3-5-2 et voilà, et on a essayé de jouer en première mi-temps au foot et on a essayé de chercher le point faible de l'adversaire et jusqu'en seconde période, on arrivait à marquer 4 buts. Je vais dire que mes coéquipiers se sont battus à fond et voilà, on va se projeter vers le match de lundi maintenant, le match retour.
La quatrième journée qui verra à nouveau les étalons face aux Djiboutiens est prévue pour le lundi 11 octobre au grand stade de Marrakech. Ce sera encore donc contre l'équipe de Djibouti et pour le compte de la quatrième journée de ces éliminatoires du Mondial 2022. Toujours dans le groupe A, au stade Séni Kountié de Niamey, les Fenech d'Algérie sont allés dicter leur loi sur le MENA du Niger, 6-1, et conservent toujours la tête du classement avec 7 points au compteur et une différence de but de plus 13, soit 7 de plus que le Burkina qui compte également 7 points. Le Niger est 3e avec 3 points et Djibouti ferme la marche avec 0 points. Les autres résultats de cette soirée, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont disposé du Malawi sur ses installations par 3-0. L'Angola bat le Gabon 3-1, un match perturbé par une histoire de test Covid et qui a finalement débuté avec 1h30 de retard. 3-1 est également le score qui a sanctionné la rencontre Cameroun-Mozambique. Enfin, l'Égypte reprend du poil de la bête en disposant du leader surprise du groupe, la Libye, par 1-0 et donc reprend la tête de ce groupe F. Aujourd'hui, nous aurons 4 matchs pour le compte de cette phase aller des éliminatoires Éthiopie-Afrique du Sud à 13h, Ghana-Zimbabwe à 16h dans le groupe G et Togo-Congo à 16h et Sénégal-Namibie à 19h dans le groupe H. Pour le compte de la quatrième journée et phase retour, la Guinée reçoit cet après-midi à partir de 16h le Soudan et la Guinée-Bissau sera face au Maroc à 19h. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté. La partie web était assurée par Charles Da. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.